بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاء الإسلام نوم يشفى الله سبحانه وتعالى qui nous donne la possibilité d'avoir avant tout jeûné ce mois mubarak, ce mois béni de Ramadan, avec toutes les récompenses, toutes les vertus, toutes les thawab qu'il y avait durant ce mois et toutes les hassanat, les bonnes actions que nous avons, inshallah, cumulées durant ce mois. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous donner encore tawfiq, encore et encore, de fréquenter sa maison, d'être assidu dans la lecture de son livre, de garder le bon comportement, le bon akhlaq du musulman, la capacité de se contrôler dans la colère, dans tous les moments de notre vie, tout comme on avait cette capacité de se contrôler durant le mois de Ramadan. Nous demandons à Allah également de nous donner la force de rester éloigné de tout ce qui est haram. Parce que si durant ces 30 jours on a pu rester éloigné de ce qui est haram, ben ça c'est tawfiq min Allah, c'est par la grâce d'Allah. Nous demandons à Allah de nous donner ce tawfiq une fois encore et de manière constante pour que toute l'année nous restons de bons et de pieux serviteurs d'Allah, de bons musulmans comme nous l'étions durant le mois de Ramadan. Le plus important dans une action, mes chers frères, c'est la sincérité. Et ce qui vient après la sincérité dans l'ordre d'importance, c'est al-istiqama, hein, la fermeté, la constance. Car concernant la sincérité, notre prophète alayhi salatu wasalam a dit innama al-a'malu binniyat. Innama, c'est une condition. S'il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'action. Et concernant la constance, le istiqama, notre prophète alayhi salatu wasalam nous a annoncé que ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. L'action, la bonne action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est faite de manière constante, même si c'est peu. Malheureusement, nous n'avons pas compris, nous avons peut-être compris le sens de la sincérité. Certainement, c'est quelque chose d'acquis. Mais le sens de l'istiqama, peut-être 2% ou 3%, allez, 5% des musulmans, ils ont compris l'importance de la fermeté. Pour nous, maintenant, le Ramadan, c'est quoi? Le Ramadan, pour nous, c'est la période de ibad. C'est la période où nous donnons, na'oudou billah, le droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Où nous allons faire la salat, nous allons fréquenter la masjid, lire le Coran et rester éloignés du haram. C'est comme si que après le mois de Ramadan, hein, nous avons accompli notre mission. Alors qu'Allah Ta'ala dit le Coran, wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a une limite à l'adoration d'Allah? Il n'y a pas de limite. La limite, c'est quoi? C'est lorsque Malik al-Maut vient, il prend le ruh, là c'est bon, là c'est fini. Là le jeu est terminé également, la partie est terminée. Et là, ce que nous avons pu faire, alhamdulillah, c'est acquis. Ce que nous n'avons pas pu faire, ce ne sera jamais rattrapé. Mais l'adoration d'Allah, c'est depuis où le jour où la personne est balir jusqu'à ce que Malik al-Maut reprenne son ruh. Wa'abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Jusqu'à la mort. Et c'est ça le but de notre vie, faire l'adoration d'Allah. Lorsqu'Allah a fait le Coran, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Le but, l'objectif de notre création des djinns et des ins, c'est quoi? C'est uniquement l'adoration d'Allah. Et lorsqu'on parle d'adoration d'Allah, il est inconcevable qu'une personne puisse intégrer le fait que si j'adore Allah un mois sur 12, j'ai adoré Allah. Vous vous rendez compte, un Ramadan, 30 jours dans l'année, ça nous ramène à 1/12 de notre vie. 1/12 seulement de notre vie que nous allons faire le ibadat d'Allah. 1/12 de notre vie où nous allons faire des efforts pour nous éloigner de ce qu'Allah n'aime pas. Mais c'est insignifiant. Et c'est avec ce 1/12 là. Est-ce que c'est avec ce 1/12 que nous allons nous présenter devant le tribunal d'Allah et nous allons espérer qu'Allah Ta'ala nous fasse accéder au Jannat sans rendre compte, comme les 10 qui vont accéder au Jannat bi-ghayri hisab, 10 mubashara bil Jannah, ou alors comme Abu Bakr, comme Moussa ibn Umair, comme Abu Huraira, comme Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, radiallahu anhum. Comment pouvons-nous penser une seconde qu'Allah va nous faire accéder directement au Jannat alors que ceux qui vont y accéder rapidement, ce sont des personnes qui ont donné leur vie pour la cause d'Allah, qui de leur cœur, il n'y avait aucune place pour le dunya. Il n'y avait que Allah, l'amour pour Allah et son prophète de leur cœur. Des gens comme ça, ils rentrent dans le Jannat sans rendre compte. Là oui, mais des gens comme nous qui 1/12 de notre vie, et encore si ça a été fait comme il le faut avec les chourouts, les conditions, là nous allons penser à Allah, c'est inconcevable. Donc vraiment, si Allah n'a pas pitié de nous, mes chers frères, même si nous passons notre vie dans l'adoration d'Allah, si Allah n'a pas raham, n'a pas pitié pour nous, nous irons pas loin. Donc demandons à Allah, ça c'est une petite introduction, de nous accepter, d'accepter déjà ce que nous avons fait. Et qu'Allah nous permette maintenant, hein, on a fait tellement de bonnes choses au mois de Ramadan, de ne pas les dilapider. Ça c'est une autre étape ça. Il y a une étape qui est l'accomplissement des bonnes actions. Mais après il y a une autre étape, c'est quoi? C'est protéger ses hasanats. Et ça, c'est une étape, je pense, plus dure que faire les bonnes actions. C'est comme en langage footballistique, il dit que conserver un titre, c'est plus dur que gagner un titre. Regardez France 98, ils ont gagné le titre. Mais est-ce qu'ils l'ont conservé? Non, ils ont même plus, ils n'ont jamais rien fait de semblable, d'accord? Conserver les hasanats, c'est un exemple en décalage complètement. Conserver les bonnes actions, les hasanats, je pense que c'est plus dur que les accomplir. Parce que dans notre vie de tous les jours, il y a tellement de péchés qui sont destructifs. Il y a des péchés qui consument les bonnes actions. Hein, et parfois, c'est des péchés dont nous ne nous rendons même pas compte de leur existence dans notre vie. Hein, l'exemple de, on expliquait ça il y a quelques jours, l'exemple de la jalousie. Lorsqu'on sait que le prophète a dit que la jalousie annule les bonnes actions comme le feu consume le bois. Alors imaginez, si dans mon cœur, même si dans mon apparence, je suis un pieux musulman, un parfait musulman, mais si mon cœur est rempli de jalousie envers mon prochain. Si dans mon cœur, je veux du mal, je souhaite du mal pour mon prochain. Je n'accepte pas de voir mon prochain, mon voisin ou mon cousin, mon je ne sais qui, réussir dans sa vie, dans ce commerce, être heureux avec sa femme, ses enfants ou quoi que ce soit. Et je suis envieux, je suis jaloux, je souhaite son mal. Ben ça, c'est quelque chose de grave, ça. Tous ces tarawih, tous ces qiyam al-layl, tous ces tahajjud, tous ces khitkhatm al-Qur'an, ça, c'est pas moi qui dis, c'est pour ça qui a dit. La jalousie, elle détruit les bonnes actions. Détruit, consume. Comme le feu consume le bois. Également, il y a des péchés qui sont lourds en conséquence. Nous, on a l'impression que péché, c'est quoi? C'est zina, c'est boire l'alcool, c'est aller en boîte, c'est tuer quelqu'un. Pour nous, notre conception du haram, c'est ça. Mais vous savez que si je ne parle plus avec mon frère, ou si je ne parle plus avec mon tonton, si je ne parle plus avec mon beau-frère au-delà de 3 jours, faites autant de bonnes actions que vous voulez. Hein. Les actions sont bloquées, ne montent plus au ciel. Deux musulmans qui ne s'adressent plus la parole, d'une telle manière que lorsque l'un... Oh, c'est pas le hadith, ça c'est l'explication. De telle manière que lorsque l'un voit son prochain, il traverse, il ne veut même pas faire salam, au-delà de 3 jours, ou 3 nuits, les actions ne montent plus au ciel. 3 jours ont été accordés parce que Allah Ta'ala connaît la faiblesse humaine. La colère, la rancune, c'est quelque chose qui est parfois inné. Quand quelqu'un vous a fait quelque chose, on ne peut pas attendre du musulman, tout de suite il pardonne. Ça c'est vraiment des hauts degrés de iman. Mais un jour, 2 jours, le temps d'évacuer, de digérer comme on dit, mais au-delà de 3 jours, une personne ne peut pas garder la haine. À moins vraiment que dans notre cœur, nous sommes remplis de haine, d'accord? Mais quelqu'un qui a un cœur pur, qui a un cœur propre, ne peut pas garder la haine au-delà de 3 jours, quelles que soient les raisons. La moindre des choses, c'est quoi? C'est même si quelqu'un vous a fait du mal, ben, quand on voit la personne, on fait salam, le quota minimum. Le SMIC, le strict minimum en termes de relations. Il n'a pas été dit qu'il faut redevenir camarade, et clic comme avant et tout, refaire les mêmes. Non, le strict minimum en termes de relations salam et des relations correctes et saines, même si on garde un peu nos distances. Mais là où ça bloque vraiment dans notre société, je pense que dans beaucoup de pays c'est pareil, il y a tellement de cassures dans les familles. Alors nous pouvons être, comme on a dit tout à l'heure, réguliers dans notre premier saf, rallonger notre barbe, être hafid al-Qur'an, être peut-être même savant, religieux ou autre chose, je ne sais pas, avoir toutes les qualités souhaitables qu'un musulman doit avoir. Mais si dans ma famille, il y a une cassure, si dans ma famille, je ferme la porte à telle personne ou je ne rends pas visite à telle personne, c'est grave. On comprenne bien que, c'est pour ça qu'on est en train de dire maintenant, conserver ses bonnes actions, c'est une autre étape. Et Shaytan, malheureusement, il a plus d'un tour dans son sac pour dilapider ses hasanat, ses bonnes actions qui ont été cumulées durant le mois de Ramadan. Donc, Allah nous donne tawfiq. Donc, comme on a dit, accepte, nous permet de conserver ses hasanat. Et troisième point, Allah nous donne l'istiqama, la fermeté pour dans cette lancée continuer les bonnes actions ainsi que notre épouse, nos enfants qui sont à la maison. Alors on avait abordé le sujet de la résurrection, du hisab, des comptes plutôt avant Ramadan, et on s'était arrêté sur les questions que chaque personne aura à répondre le jour de Qiyama. On avait dit que ce ne sont pas les comptes, c'est comme si on va répertorier le jour de la résurrection les bienfaits que chaque personne a eu. On avait parlé du ni'mat de la famille, on posera des questions à l'homme concernant sa famille, qu'est-ce qu'il a fait avec le ni'mat de la femme et des enfants, également sur la santé, sur le temps, sur la jeunesse, etc. sur les biens matériels qu'Allah a pu donner à une personne. Donc on avait fait à peu près le tour des questions que chaque musulman se devra de répondre le jour de la résurrection. Et comme on l'a dit, on le précise encore, ce ne sont pas là les comptes. Les comptes, ça concerne péché. Ça concerne bienfait, ni'mat. Comme Allah Ta'ala dit au Coran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذِنْ عَنِنْ Ah oui, alhamdulillah, anin na'im. Le jour de Qiyamah, vous serez questionné à propos des na'im, des bienfaits. Parce que pour nous, na'im, les bienfaits, c'est quoi? C'est un acquis. Si je suis en bonne santé, ben, m'y mange pas n'importe quoi, m'y fume pas, m'y boit pas. Non, même en bonne santé. C'est pas comme ça. Il y a plein de gens qui ont un rythme de vie très correct, très sain, et n'ont pas la santé. Si j'ai un peu de bien, alhamdulillah, je vais faire mon travail pour ça. ma fais études, moi, je n'ai pas chômé, j'ai fait bac plus 5, bac plus 6. C'est comme si que je l'ai mérité. C'est un acquis. C'est presque comme si que c'était un droit. Si j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai qu'à quitter facile, qui a madame là, a fait la demande, la machin, elle a fait comme ci, elle a fait comme ça, m'a acheté un calme, j'ai fait des dépenses. Maintenant, ma femme est heureuse dans sa maison. Et comme ma femme est heureuse, elle a tout ce qu'elle veut, ben elle-même. Donc, tout va bien. C'est pas comme ça. Là, wallah, c'est pas comme ça. Combien de personnes, ils ont des châteaux, des demeures, et n'ont pas la tranquillité de leur couple. Quand on a de bons enfants, des enfants, alhamdoulilah, si ça existe encore, qui sont sur le droit chemin, alhamdoulilah, qui sont fermes de leur dîn, qui ont un bon comportement, qui me respectent en tant que mère, qui respectent ma femme en tant que, qui me respectent en tant que père, respectent ma femme en tant que mère, pour nous, ben, de toute façon, ma vie est du kazak, moi. Il m'a mettre à notre droite quand j'étais petit. Combien de parents, ils mettent des enfants à droite? Mais à l'âge de 15, 16 ans, quand il met le pied dans le lycée, dans les abîmes profonds de l'enfer que sont les lycées, quand il rentre dedans, avec la fréquentation, même si c'était un malaïka, il se transforme en iblis. Ça, c'est, subhanallah, si ce n'est pas 70%, ce serait 80% des cas. Là, je ne peux plus rien, là. Mon garçon a 16 ans. Qu'est-ce que je peux faire? T'as pas l'idée, t'as pas un maman à 16 ans. Ça ne se fait pas, ils apportent plein de la police tout de suite. Il y a numéro vert, enfance maltraitée, enfance battue. Il y a tout. Il y a enfance battue, il y a chien battu, il y a femme battue, il y a tout battu. D'accord? Il n'y a pas musulman opprimé. Ah, c'est bizarre ça. Hein? Il y a homophobe, il y a toutes choses, mais islamophobe, il n'y a pas. C'est pas de le paysage encore. Donc, voilà. À 16 ans, mon fils me désobéit. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Je ne peux pas le frapper. Je ne peux pas le punir. On ne punit plus un adolescent de 16 ans, 17 ans. C'est ridicule. D'accord? Donc, quand on a ses bienfaits, femme, enfant, travail, la santé, les bienfaits sur le plan matériel ou autre chose, nous devons être conscients que c'est là un don. Ça, c'est ata min Allah. C'est un ni'mat qu'Allah Ta'ala nous a accordé. Et, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ يَعْنَعِمْ. C'est-à-dire, à partir du moment où Allah donne, Allah attend. Allah observe. En Dieu, mais Allah attend une réaction de notre part. La reconnaissance, bil-lisan, reconnaître que, reconnaissance bil-qalb avant, par le cœur. Je sais que ça vient d'Allah. Ce n'est pas moi qui ai fait des efforts. C'est Allah qui m'a donné. Deuxièmement, en remerciant Allah, alhamdulillah, des shukran ni'ma. Et troisièmement, l'utilisation de ses bienfaits dans l'obéissance d'Allah Ta'ala. Donc ça, c'était un petit résumé de ce qui avait été abordé pendant un ou deux mois avant le mois de Ramadan. Maintenant, on entre directement dans les comptes, le hisab. Alors, avant de commencer les différentes actions, parce que comment est-ce que, bismillah, on va essayer d'aborder le hisab en essayant d'étudier quels sont les péchés et quels sont les péchés qui seront les péchés les plus connus qui seront jugés le jour de Qiyama, et comment ces péchés seront jugés et quelles seront les conséquences. Par exemple, des choses toutes simples, l'abandon de la salah, l'abandon de la zakat, la désobéissance envers les parents. Hein, ça, ce sont des péchés, on a maintes fois entendu ça, que ça c'est un péché, Allah n'est pas content, ça c'est des choses acquises. Mais maintenant, si quelqu'un l'a fait et quelqu'un n'a pas eu le tauba de la part d'Allah, s'il n'a pas demandé pardon, ben, comment est-ce qu'on devra gérer ces péchés cumulés le jour de Qiyama devant le tribunal d'Allah? Ça, c'est cette étape, hein, des conséquences des péchés, qui est l'étape la plus importante, ce qu'on appelle de manière générale al-hisab, les comptes, le jour du jugement, le jour des comptes, yom al-hisab. Alors, tout d'abord, on va essayer de voir quatre ou cinq points, des règles concernant la manière dont les hommes seront jugés devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on s'arrête à 30 minutes, inshallah. On est à 13 minutes, pour que ce ne soit pas lourd pour personne, inshallah. Premièrement, il faut savoir que les actions seront jugées le jour de Qiyama, et de ce dunya également, de la manière dont ils sont inscrits dans les livrets de compte. Les actions sont jugées selon les intentions. Le hadith qu'on a dit tout à l'heure, « Innamal a'malu bin niyyah ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si j'accomplis de bonnes actions, si le but c'est de faire voir aux gens, si le but c'est que les gens parlent en bien de moi ou autre chose, l'action n'a strictement aucun intérêt. Ne faites pas. Faites pas. Il n'y a aucun intérêt. Et je dirais même plus, non seulement ça ne nous apporte rien, mais en plus c'est halak. C'est un péché. C'est une source de colère, de mécontentement de la part d'Allah. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wassalam a qualifié l'ostentation de ash-shirk al-asghar, le petit shirk. Parce que lorsque je donne pour la masjid, ou je fais tahajjud, ou je fais quelle que soit l'action, peu importe, si mon but c'est pas le contentement, rechercher le contentement d'Allah, je suis en train d'associer quelqu'un à Allah dans mon niya, dans mon intention. C'est pour ça que les machaïs disent toujours, les ulama disent, essayez de contrôler votre niya. Avant l'action, pendant l'action, après l'action, que je suis bien conscient. Il y avait, subhanallah, un tabi'in, je ne sais plus, je vais expliquer ça aux élèves de l'imam madrasa, Soufiane al-Thawri, je ne sais pas quel tabi'in, disait que je n'ai jamais trouvé quelque chose de plus difficile que le contrôle de l'intention. Parce que c'est quelque chose qui dandine, c'est quelque chose qui peut vous échapper à tout moment. Vous commencez à faire une bonne action, hein, avec beaucoup de sincérité. Mais après, à un moment donné, vous êtes dans le feu de l'action. Vous êtes emballé. Hein, les gens, ils sont contents et autre chose. À un moment donné, comme il dit, vous ne sentez plus où, là. À un moment donné, le niyat, il dévie. Et ça dévie un degré par heure. Ce qui fait qu'au bout de 2-3 jours, vous n'êtes plus du tout dans le bon chemin, là. Vous faites uniquement pour que les gens parlent de vous, vous apprécient ou autre chose, ou disent que celui-là, c'est un homme généreux. Lui, il a donné, lui, il a fait ça, il a donné, il est alim ou je ne sais quoi, etc. C'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a annoncé ce hadith d'Abu Huraira, rapporté par Abu Huraira, pour ensemble, dit que « Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik » Le hadith est un peu long, ça c'est le hadith, ce n'est pas exactement ce que je cherchais, mais bref, si on a commencé, notre prophète nous a fait comprendre que lorsqu'une personne a l'intention d'accomplir une bonne action, le niyat bas, Allah il le rétribue déjà pour son intention. Et si l'homme accomplit la bonne action, Allah lui donne 10 fois plus au minimum. Tandis que pour les péchés, wa in hamma bi sayyi'a, j'ai envie de faire un péché, mais après je m'abstiens par crainte d'Allah. J'ai envie de le faire, mais après je dis non, Allah me voit, je ne peux pas faire ça. Non, Allah Ta'ala nous donne des récompenses parce qu'on a délaissé quelque chose pour Allah. Et si, malheureusement, la personne accomplit le péché était inscrit une seule fois. Alors que pour les bonnes actions, le niyat même, c'est une fois. Et l'action accomplie, c'est au moins 10 fois, voire plus, selon la sincérité et comme Allah Ta'ala connaît. C'est pour ça que, mes chers frères, il est important d'avoir toujours le cœur propre. Mais ça, tout le monde dit qu'il n'a le cœur propre. C'est le grand problème, c'est ça. Tout le monde se déclare être propre. Moi, de toute façon, mon cœur est propre. Même le monde ne fait jamais, il ne fait pas la masse jamais, il ne vient pas jamais masjid, il va consommer de l'intérêt, il va faire telle erreur, il va dire que de toute façon mon cœur est propre. Ça aussi c'est un piège de shaitan, il vous fait croire que dedans est propre. Mais qui vous dit que dedans est propre? Ça, on n'a aucune capacité, aucun moyen de prouver que dedans est propre. C'est juste que je me dis et je vais m'autosuffire de cela pour justifier tout ce que je fais. Donc avoir le cœur propre c'est important. Et en plus de cela, avoir le cœur toujours rempli de bonnes intentions. Dans n'importe quelle situation de ma vie, il faut que j'ai l'intention de faire des bonnes actions, même si je ne peux pas le faire. Et pour expliquer cela, le prophète alayhi salatu wassalam nous avait expliqué une fois qu'il était dans une campagne avec des sahaba, je n'ai pas en tête le nom de cette ma'araka, et le prophète m'a dit qu'il y a des gens qui nous accompagnent partout, alors qu'ils sont toujours à Madina Munawwara. C'est-à-dire des gens qui devaient venir en khuruj, hein, dans cette campagne avec les musulmans, mais ils n'ont pas pu venir. Le prophète a dit, à chaque fois que nous traversons une vallée, ou nous passons tel endroit, c'est comme si qu'ils étaient avec nous. C'est-à-dire, ils ont exactement les mêmes récompenses. Et là, les sahabas disent, le prophète d'Allah, comment cela se fait-il? Et le prophète a expliqué que c'est uniquement tel ou tel problème qui a fait que ces gens-là ne peuvent pas être avec nous. Par exemple, al-marad, la maladie, par exemple, qui fait que telle personne n'a pas pu nous rejoindre. Mais sinon, son niyat, son intention était pure. Cette personne avait l'intention ferme de faire l'effort, de faire la bonne action. C'est uniquement un empêchement physique qui a fait que la personne ne peut pas accomplir la bonne action. Donc, le niyat est là. Allah, il donne déjà là la récompense. Et le prophète expliquait également qu'une personne qui devient âgée, ou alors une personne, qu'Allah nous protège, est atteinte d'une maladie grave. Elle dit, si ces personnes-là, dans leur jeunesse, ou avant cette maladie, hein, avait l'habitude de faire telle ou telle bonne action. C'est quelqu'un qui était toujours à masjid 4 heures du matin, qui lisait toujours 5-6 paras par jour. Par exemple, si arrivé à un moment de sa vie, cause de la vieillesse ou maladie ou autre chose, cette personne ne peut plus accomplir ses bonnes actions, notre prophète a promis qu'Allah Ta'ala continue à rétribuer cette personne kama kana ya'malu sahihan muqiman ou kama qala alayhi salatu wassalam, comme si c'est exactement comme cette personne faisait lorsqu'elle était en bonne santé ou lorsqu'elle avait la possibilité de le faire. Donc on comprenne bien que dans notre cœur, nous devons toujours avoir envie de faire des bonnes actions. Par exemple, nous savons que tel frère, il y a un frère qui vient nous voir, il est dans les difficultés. Il a des problèmes pour payer son loyer, il a des dettes, il a je ne sais pas, quel souci d'argent par exemple. Même si moi je ne peux pas l'aider, je n'ai pas les moyens moi-même, je ne peux pas m'en sortir, mais dans mon cœur, il suffit que je me dise que, wallahi, si j'avais les moyens, j'aurais donné à mon frère. Je l'aurais aidé si j'avais. Si Allah il voit que dans mon cœur, ce tamanna, ce désir est pur et sincère, Allah m'accorde exactement cette récompense. Car le prophète avait expliqué une fois,
le cas d'un homme qui est riche, qui dépend de le chemin d'Allah, et une autre personne qui admire cet homme et qui se dit, si j'avais autant d'argent, j'aurais fait pareil. Fahuma fil ajri sawa. Le prophète me dit que ces deux personnes-là, ils ont les mêmes récompenses. Allah il rétribue cette personne qui ne peut pas donner, mais dont le cœur est rempli de bonnes intentions. Allah le rétribue. Mais ça, c'est uniquement Allah qui peut le faire. Parce que Allah seul, Allah c'est le seul qui peut lire ce qu'il y a de les cœurs. Moi je ne sais pas moi telle personne est sincère et pas sincère, mais Allah il connaît si dans mon cœur je suis vraiment sincère. C'est pareil pour un tawbah, pour un tawbah tu nasuha. Quand on demande pardon à Allah de Ramadan ou en d'autres périodes de l'année, oh Allah pardon, j'ai fait telle erreur, telle erreur. Deux personnes peuvent être à côté, près de la Kaaba, ou Arafat, ou autre chose, un autre endroit, ils peuvent être côte à côte, en train de demander istighfar, quoi le même péché, un est accepté, l'autre n'est pas accepté. Pourquoi? Parce qu'Allah ta'ala connaît que celui-là, dans son cœur, il a les remords. Et de deux, il a fait al-azm, le niyat ferme de ne plus jamais recommencer. Il a honte. Et il a fait l'intention de rester éloigné de tout ce qui le rapproche de ce péché. Allah, il accepte, parce que son cœur est rempli de sincérité. D'autre à côté, il demande pardon, c'est une formalité. Et il projette déjà quand est-ce qu'il va recommencer le péché. Il a déjà planifié son prochain péché, même s'il ne le dit pas. Celui-là, les conditions du tawbah ne sont pas remplies. D'accord? Donc, dans les cœurs, c'est Allah seul qui sait. Et il y avait un hadith, subhanallah, peut-être qu'on va voir après, concernant également l'intention. Donc, ça veut dire également, Inna Allah tajawaza li ummati, ma, ça c'est important, ma haddathat bihi anfusuha, ma lam ya'malu bihi ou yatakallamu bihi. Ça c'est une ni'mat, un bienfait de la part d'Allah. Tant que le péché n'est pas accompli, n'est pas concrétisé, Allah Ta'ala empêche les anges d'inscrire le péché. Nous ne cumulons pas de péché tant que l'action, la mauvaise action n'a pas été accomplie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si dans mon cœur, même si j'ai une mauvaise pensée ou j'ai des mauvaises choses dans mon cœur en termes de pensée ou autre chose, tant que je ne concrétise pas ou j'ai l'intention de faire un haram, tant que je ne le concrétise pas par mes gestes, le péché n'est pas inscrit. Maintenant, il y a un cas de figure à part, c'est le hadith, mais on ne va pas expliquer, ce n'est pas le but de parler que de ça. Si quelqu'un a l'intention de faire un péché, l'intention ferme, mais il y a eu un empêchement qui fait qu'il ne peut pas accomplir le péché, là le péché lui est accordé quand même. Par exemple, les samedis soirs, l'intention d'aller Zaza ou alors, comment appelle encore l'autre boîte hein? Je ne sais pas, Alhamdulillah, Allah protège. J'ai l'intention d'aller au Moulin Rouge ou d'aller Zaza ou d'aller je ne sais quel endroit, hein, Saint-Pierre ou Saint-Gilles. J'ai l'intention, les prêts, camarades finissent parés, tout est à ta main, chacun fait khusus et gâche là, un yatama, un machal le clair, un l'étal endroit, un l'étal endroit, ça fait khusus et mon arcat, récupère chacun, ma fille fait moitié coiffe, fashion, tout là, n'a pas deux comme moi là, impeccable, d'accord? Démarre le taux ne pète plus, alhamdulillah, batterie la plate. Arrache le cheveu ou coupe là ou remette à l'île plate, d'accord? Parce que c'est uniquement le fait que ma voiture ne marche pas qui fait que je ne suis pas parti. Là, les ulama expliquent que dans ce cas où je n'ai pas pu accomplir le péché, parce que il y a une raison indépendante de moi, le péché est accordé. Alors, par exemple, une jolie fille, tu t'es dans un canon. Il y a un bus sans passer, ça y arrive, ça. Hein? Quand le bus est passé, regardez, c'est un vieux grand, mais il y a un traversé. Il y a un rond de bus, ça parti. J'avais l'intention ferme de regarder, mais j'ai pas pu, parce qu'elle a traversé, ou elle a rentré dans un magasin, dans une voiture. Ben, le niyat était sincère, il y a juste quelque chose de matériel qui a fait que je n'ai pas pu. Selon certains ulama, le péché est accordé. Mais ce qui est important à retenir, c'est que même si dans mon cœur j'ai des mauvaises choses, si je ne le fais pas, Inch'Allah, Allah ne nous réprimande pas. C'est valable également pour les waswasa, les insufflations. Parfois, même parfois l'homme il réfléchit, il commence à poser des questions sur la religion, mais pourquoi? Elle n'est pas normal et tout et tout. Mais ça c'est des tentatives de shaytan. Et alhamdulillah, ces mauvaises paroles sont restés au degré, au stade de waswasa, d'insufflation, c'est-à-dire dans l'esprit. Et ils ne se sont pas concrétisés pardon, par les actions. Donc ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Un exemple concret, le ribat. Par exemple, si j'ai une mauvaise pensée pour quelqu'un, ou j'ai envie de parler des défauts d'une personne, à partir du moment où je vais l'exprimer oralement, le péché est accordé. Maintenant, si, quand je vois quelqu'un, je dis, t'es là, franchement, il vient à masjid, il soit allé t'étonne boire, il fait telle chose, il tape sur madame son casque, il fait ça. Après, il vient à nous, telle chose. Tant que c'est dans mon cœur, Inch'Allah, il n'y a pas de péché. Mais il ne suffit pas de parler, il suffit de faire, dans certains hadiths, je vous envoie dans Sahih Muslim, dans les commentaires, il est expliqué, il suffit de faire un mouvement des sourcils, ou un signe de la tête, ou un sourire, ou un hochement de la tête, pour que le ribat soit pour que cette chose soit considérée comme ribat. Exemple, il y a un camarade là, quelqu'un rentre, il fait comme ça. C'est bon, c'est ribat. On a tous compris de quoi on parlait. Voilà, il rentre fait avec quelqu'un, c'est ribat. Ou alors, on sourit, un sourire moqueur, c'est ribat, d'accord? Mais tant qu'on n'a rien fait, on n'a pas exprimé, c'est resté au niveau du cœur, Inch'Allah, Allah Ta'ala, il pardonne ces mauvaises pensées qu'il y a de cœur. Donc, premièrement, les actions sont prises en considération par le niyat, par l'intention. On n'a rien oublié là-dessus. Voilà. Deuxième point, on en est à 25 minutes, soit 5 minutes, je pense, sera le dernier point, les deux autres, on va faire la prochaine fois. Deuxième point, ça c'est une évidence, Allah Ta'ala ne fait oppression sur personne. Il n'y a pas de zulm. C'est ce dunya, il y a zulm. Ce dunya, c'est un monde rempli d'injustice. On ne trouvera jamais l'adl, la justice complète. Mais le jour de la résurrection, Allah Ta'ala, il fera justice à propos de nos manquements envers lui, à propos de nos manquements envers nous-mêmes, et ça c'est plus dur encore. Ça, il y a un hadith, on emboîte le pas, on le dit tout de suite, ne serait-ce si on a retenu que ça de ce soir, c'est bien. Le prophète a dit qu'il y a Ad-dawawin thalatha. Il y a trois catégories de livrées de péchés. Fadiwan, la yafirullahu minhu shay'a. Il y a une catégorie de livrées qu'Allah Ta'ala ne pardonnera jamais. Il y a une catégorie de livrées qu'Allah Ta'ala il peut pardonner. Et il y a une troisième catégorie qu'Allah Ta'ala ne laissera jamais passer. Le premier, c'est irréparable. La yafirullahu minhu shay'a. Cette catégorie, c'est quoi? C'est ce qui concerne le shirk billah, l'association, le polythéisme. Quelqu'un qui adore autre qu'Allah ou qui meurt sur autre que l'islam, ça, il n'y a aucun espoir. Et on n'a pas le droit même d'émettre l'espoir qu'Allah va le pardonner le jour de Qiyamah. Ça, on ne peut pas. Même s'il a fait tout ce qu'un homme peut faire de bien dans ce monde, cette personne ne sera jamais pardonnée par Allah. Ça, c'est promesse d'Allah. Innahu man yushrik billahi faqad haram Allahu alayhi al-jannah. Celui qui a fait le shirk, Allah Ta'ala a rendu le jannat haram sur lui. Wa ma'wahun an-nar. Sa destination, c'est le feu de l'enfer. Et c'est la destination pour l'éternité. Donc, ça, qu'Allah nous protège. Ça, je pense que c'est quelque chose de classé. Inch'Allah, ça ne nous concerne pas. On demande à Allah la mort avec iman. Mm-hmm. Deuxième catégorie de diwan, de livret, c'est un livret qu'Allah, Ta'ala, il peut pardonner ou il peut ne pas pardonner. Cela concerne, on appelle ça « zulmul abdi nafsahu ». C'est lorsque l'homme, il se fait du tort à lui-même. Comment? C'est pas parce qu'il sadomaso, hein. Il se fait du tort à lui-même comment? C'est-à-dire en abandonnant les ordres d'Allah. Quelqu'un qui délaisse la salat, quelqu'un qui délaisse le saum, le jeûne par exemple, quelqu'un qui accomplit des péchés. C'est-à-dire que là, il est en train d'accomplir des péchés dans une catégorie qui est la relation entre l'homme et Allah. Huququllah, les droits d'Allah. Salat, zakat, hajj, ramadan, etc., etc. D'accord? Ça, c'est les droits d'Allah. Par exemple, faire oppression sur ce prochain, mentir ou faire ribat, ne pas rembourser ses dettes, voler, ça fait pas partie de ce genre de péché. Parce que ça concerne les mu'amala, les rapports avec les gens. Là, on parle de ce qui me concerne moi et Allah directement. La salat, wa shol, les ibadat, badani, d'accord? Ce genre d'action, ou mali bien sûr, mais le culte, on appelle ça le culte. Ça, Allah, il peut pardonner comme Allah peut ne pas pardonner. Il y a des gens qui seront jetés dans le jahannam, qu'Allah nous protège, pour des salats manquées. Il y a d'autres personnes pour les mêmes péchés, Allah peut les pardonner. Ça, c'est Allah qui décide. Allah, il connaît les circonstances, Allah, il connaît nos difficultés, ça, on ne peut pas se prononcer. Mais par contre, et c'est là où on veut en venir, la troisième catégorie de livret, Ammad Diwan, alladhi la yatruku Allahu minhu shay'a. Troisième catégorie, c'est pour cela, Allah, il ne laisse rien. On pourrait dire, en français, même pas une miette. C'est-à-dire, Allah, il ne délaissera même pas un poisson des choses écrites dans ce genre de livret. Fa bi mazalimi al-ibadi bainahum. Cela concerne le mal qu'on a fait aux gens. Là, on entre dans le domaine de huquq al-ibad, les droits des gens. Voler, ribat, ne pas rembourser ses dettes, frapper quelqu'un, humilier quelqu'un en public, rapporter des choses, calomnier, qila wa qala, etc., etc. Tout ça, relation avec mon épouse, relation avec mes enfants, relation avec mes parents, là-dessus, Allah ne pardonne pas. Et Allah, il fera le jugement, mais sévère, le jour de la résurrection. Allah, il peut pardonner la totalité, l'intégralité des péchés en relation avec le droit d'Allah. Mais concernant le droit des gens, Allah ne peut pas le faire parce que cela concerne une personne vivante. Et Allah a rendu le dhulm haram sur lui-même. Si Allah Ta'ala a pardonné à quelqu'un qui vous devait 10 000 euros, ou quelqu'un qui vous a humilié en public, ou quelqu'un qui vous a fait perdre votre travail, fait fermer votre commerce, il vous a fait divorcer avec votre femme, etc., etc. Comment Allah peut pardonner à cette personne? Non, Allah ne le pardonnera pas. Allah il fera en sorte que la justice sera rendue le jour de la résurrection entre l'opprimé et l'oppresseur, de la manière qu'on avait déjà expliqué maintes et maintes fois avant. Vous voyez? Donc Allah ne fait de dhulm sur personne, comme on l'a dit, Allah Ta'ala a rendu le dhulm haram sur lui-même et il a décrété haram entre vous, c'est-à-dire pour les êtres humains. Fala tazalamu, donc ne vous faites pas du mal à vous-même. Le Coran Ta'ala dit dhalika bima qaddamat aydikum. Le jour de Qiyamah, ce qu'on va voir, c'est ce que nos mains ont accompli. Wa anna Allah laysa bidhallamin lil'abid, et qu'on sache bien qu'Allah ne fait du mal, ne presse personne. Allah dit dans le Coran, man amila, et on terminera avec ça, man amila salihan fali nafsi, wa man asafa alayha. Il dit que celui qui a fait de bonnes actions, ben c'est lui qui en profitera. Celui qui a fait des péchés, ben c'est lui-même qui en verra les conséquences. Qu'on comprenne bien que si l'humanité tout entière se réunissait pour faire toutes les bonnes actions et demander à Allah tout ce qu'on peut demander, et qu'Allah accorde à tout le monde ce qu'il mérite, cela ne diminuera en rien le trésor d'Allah, tout comme l'aiguille trempée dans la mer, on n'en retient même pas une goutte. C'est un hadith très connu. Dire que Allah n'a pas besoin de bonnes actions. De même que nos péchés n'atteignent pas Allah. Allah n'est pas dérangé, entre guillemets, par les péchés que l'humanité entière, toute l'humanité, même s'il faisait le chiffre, ça ne ferait rien, ça ne diminuerait en rien le pouvoir d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, un exemple concret, hein, qu'on comprenne bien que quand nous on fait de bonnes actions, c'est nous qui serons les premiers à profiter. Quand parfois il nous arrive, en tant qu'alim ou autre chose, de donner des conseils aux gens. Parfois, ou d'expliquer à telle personne que ben, telle manière de travailler, c'est haram, essaye de regarder, de changer ta manière de faire transaction, autre chose. Il y a beaucoup de gens qui se disent, ben Alim, là, vous n'êtes pas, comment on pourrait dire ça de manière plus soutenue, ben, n'êtes pas occupé de vos propres affaires, que vous êtes occupé des affaires du monde, ben, laisse le monde tranquille, chacun sa vie. Parce que c'est la conception de la société. Nous vivons dans une société individualiste, où chacun s'occupe de son carré, chacun s'occupe de ses affaires. On n'a pas à aller dire à quelqu'un, fais ci ou fais ça, ça n'est pas intégré dans les habitudes, dans les mœurs de notre société. Avec cette mondialisation où tout le monde agit et pense d'une même manière. Mais dans le dîn, ce n'est pas pareil. Parce que ça m'a dit, c'est un ordre. Man ra'a minkum munkar an falyughayyirhu bi yadihi. Celui qui voit un mal, qu'il le change avec ses mains. S'il ne peut pas avec sa langue, ou au pire des cas avec son cœur, il ressent le chagrin. D'accord ? C'est-à-dire qu'il est de mon devoir en tant que halim, ou alors même si je connais quelque chose est haram, je vois mon frère en train de l'accomplir, il est de mon devoir de l'approcher avec sagesse et d'essayer de faire passer le message. D'accord? Parce que lorsque on a donné un conseil à quelqu'un, ben est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'un alim qui va voir des parents ou un jeune pour lui donner un conseil, est-ce que la personne qui a Hidayat va vous faire un chèque? Non. Je ne sais pas si j'accepterai lui ou non, mais en tout cas, personne ne l'a fait jusqu'à maintenant. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, on n'a rien à gagner sur le plan matériel. Bien au contraire. Quand vous allez dire quelque chose à quelqu'un, peut-être il va vous dire, oui, à la réunionnaise, non, d'accord, mais ça, d'accord, mais pas derrière. Attends, dimanche après-midi, quand Mme Biliani, là, il diffuse, ok, Moïsa Blas, c'est un extrémiste, ça. Que la Biliani, hein, quand on casse du halim le dimanche en famille, hein, comme c'est de la tradition chez beaucoup de gens, on entend tout ça, on connaît ça, Mme Salafia, qu'Allah pardonne à ces personnes. Donc, on ne gagne rien en interdisant quelque chose ou en ordonnant, en donnant des conseils. Bien au contraire, parfois, hein, il y a des gens qui se retournent contre vous parce qu'ils n'aiment pas. Qu'on interfère dans le mode de vie, mais quand on fait quelque chose comme ça, mes chers frères, qu'on comprenne bien, ça, on le fait pour Allah, que c'est un ordre d'Allah, premièrement. Et deuxièmement, on fait pour protéger la personne. On fait en sorte que la personne ne cumule pas des actions qui feront qu'un jour, il se présente devant le tribunal d'Allah. Allah ordonne au malaïka de le prendre par son visage et de le jeter dans le jahannam, parce que pendant toute sa vie, cette personne a travaillé avec le riba, avec l'intérêt. Ou alors que durant toute sa vie, cette personne a coupé les liens complètement avec sa maman ou avec son papa. Ou elle a fait telle ou telle ou telle chose haram, cette personne a fait le zina toute sa vie, ne s'est pas mariée ou telle ou telle chose. Quand on donne un conseil à quelqu'un, c'est parce que c'est un ordre d'Allah, je le répète. Et deuxièmement, c'est pour que la personne n'ait pas à vivre des situations difficiles le jour des Qiyamah. Car le but de tous les bayans, de toutes les interventions, d'accord, c'est de ramener les gens vers le dîn d'Allah. Que lorsque le musulman, il se présente devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son livret, que son livret lui soit remis de la main droite et qu'il dira aux gens, ha umukra'u kitabia. Cette personne montre fièrement son livre auprès de l'humanité et il dira, venez voir ce que j'ai eu comme hisab, et que cette personne soit ordonnée d'être accompagnée et d'être accueillie par les anges dans le djinn. Après, mis à part ça, qu'on soit blanc ou qu'on soit noir, qu'on soit indien, qu'on soit arabe, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, tout ça, ce sont des détails. Le plus important, c'est que chaque personne qui a de son cœur, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il puisse mener une vie qui le fera accéder au paradis. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Le succès, c'est quoi? C'est pas d'être riche, célèbre, adulé des gens. Le succès, c'est quand je m'éloigne du Jahannam et je me rapproche du Jannah. Ça, c'est l'homme qui a réussi, qui est entré au paradis et qui a été protégé du feu de l'enfer. Qu'Allah Ta'ala nous donne la possibilité de comprendre ces paroles. Allah donne tawfiq de mettre en pratique, de moi-même en premier, d'intégrer ça dans ma vie, dans la vie de ma femme, la vie de mes enfants. Et qu'Allah nous donne la possibilité de changer notre vie, de le rapprocher de lui de jour en jour. Que chaque jour qui passe, c'est un jour qui me rapproche d'Allah. Chaque jour qui passe, mon iman augmente. Ma sagesse, ma hikma augmente. Mon ilm, ma connaissance augmente. Je me rapproche d'Allah. Et chaque jour qui passe, c'est un jour où je peux me contrôler de plus en plus. J'arrive à repousser les pièges de Shaytan. J'arrive à contrôler mon nafs. J'arrive à ce degré qui est al-ihsan. De jour en jour, je me rapproche du ihsan. C'est le summum, le paroxysme de la foi. C'est que j'adore Allah comme si qu'Allah est devant moi. Je suis persuadé qu'Allah me voit. Et c'est comme si que je voyais Allah. Ça, c'est le plus haut degré de iman que les sahaba, ils avaient tous atteint et qu'Allah nous permet d'atteindre peu à peu, inshallah, qu'avant notre mort, nous soyons de parfaits croyants. Jazakumullah khair. Une petite anecdote. On va terminer. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.